RFI, grand reportage.
Guillaume Cordeau.
En France, plus de 66 000 tonnes de pesticides sont utilisées chaque année en agriculture, non sans risque pour l'environnement et la santé humaine. Aussi, sous l'impulsion du Grenelle de l'environnement, l'État a lancé il y a 7 ans le plan Ecophyto. Objectif, dans 3000 fermes pilotes, réduire de moitié l'utilisation des produits phytopharmaceutiques d'ici 2018. Faute de résultats suffisants, ces objectifs ont été repoussés à 2025. Si les progrès sont lents, de nouvelles pratiques ont été adoptées en métropole et dans les DOM. Sur l'île de la Réunion, le département d'outre-mer le plus avancé en agroécologie. Mangue et canne à sucre, l'agroécologie progresse à la Réunion. C'est un reportage d'Ariane Gaffuri.
Nous avons à peu près 6 hectares en verger, uniquement de mangue. Donc là, vous voyez déjà, là, il y a une dizaine d'années, on désherbait chimiquement. Et depuis 5-6 ans, on laisse l'herbe. J'étais un vrai chimiste. Je ne croyais pas à l'agroécologie. Je trouvais ça, je disais jamais on pourra nourrir la planète en faisant des pratiques comme ça. Et depuis une dizaine d'années, c'est le contraire. Mon principe, c'est de ne plus utiliser d'insecticides, ne plus utiliser d'herbicides.
Nous sommes sur les terres de Jean-Luc Maillot, producteur de mangue depuis 30 ans à Saint-Paul, dans l'ouest de la Réunion. Ses vergers sont de taille moyenne avec d'un côté une vue plongeante sur l'océan Indien et de l'autre les montagnes verdoyantes du Maïdo. Teint bruni par le soleil et chapeau de cow-boy sur la tête, Jean-Luc Maillot commercialise 8 variétés de mangue. C'est un coup du sort qui l'a amené à devenir un pionnier de l'agroécologie.
Il y a 6 ans, on a eu un très gros problème d'insectes. Suite à l'introduction d'un petit insecte à La Réunion, on a eu une pullulation de cochenilles. Et on a remarqué que chimiquement, quels que soient les traitements, on n'arrivait plus à faire face. Et c'est la Chambre d'agriculture et le CIRAD qui a commencé à lancer l'idée de laisser faire la nature. On a arrêté simplement l'herbicide. Donc l'herbe est revenue naturellement. Le premier avantage, c'est de créer une barrière entre les insectes qui s'attaquent aux manguiers, mouches des fruits et ces cydomines qui font leur cycle par le sol. Et ce tapis d'herbe empêche le développement de ces insectes-là. Je ne dis pas qu'on l'a fait disparaître totalement, mais on arrive à maîtriser, préserver l'environnement, puisque quand on désherbe, on tue tous les insectes utiles.
Alors là, je vois qu'il y a des pièges sur certains de vos arbres.
C'est plutôt un piégeage. Il faut savoir s'il y a beaucoup de mouches.
Ok, donc en fait, c'est une bouteille en plastique.
Avec des petits trous, des petites pipettes, de manière à ce que la mouche pénètre dans la bouteille par ces petits trous-là et n'arrive plus à sortir. Elle crève naturellement, mais il n'y a pas d'insecticide dedans. Il y a juste l'attractif. Si je prends l'exemple de la mouche des fruits, en traitement chimique avant, on avait entre 10 et 15% de pertes de mangue qu'on ne pouvait pas commercialiser parce qu'elles étaient piquées. Et avec ce système-là, on est descendu à 2% de mangue piquée. Donc ça veut dire qu'avec les moyens agroécologiques, même si ça coûte à peu près pareil, en achat de pièges, en temps passé à s'occuper de l'agroécologie, on gagne en qualité et on gagne en quantité de mangue commercialisée.
À La Réunion, une trentaine de producteurs de mangue et de canne à sucre sont impliqués dans le plan Ecophyto. En tout, 3000 fermes en France, appelées fermes défi, sont concernées par ce plan. Leur ambition, réduire de moitié l'utilisation de pesticides d'ici 8 ans et servir d'exemple. À ce stade, l'État a investi près de 350 millions d'euros dans ce projet. Ces crédits sont issus d'une taxe sur la vente des pesticides les plus dangereux. Luc Van Uffel est agronome à la Chambre d'agriculture de Lille. Sur le terrain, il veille au bon déroulement du projet.
Un des leviers, disons, de réduction de produits phytosanitaires, c'est la promotion de l'agroécologie. Et l'agroécologie se base sur la lutte par conservation, c'est-à-dire recréer des écosystèmes naturels et qui rendent service à l'agriculteur et de fait aux cultures. Donc évidemment, on se base aussi sur créer un environnement favorable pour toute cette faune auxiliaire, tous ces animaux qui vont se nourrir des insectes, des ravageurs des cultures.
Là, celle-ci est parasitée. Là, c'est une cochenille qui est parasitée, donc il y a un petit insecte qui se développe à son dépens. Et donc là, elle est complètement immobile, elle est sèche, elle est morte. Vous voyez, crac.
En gros, il y a deux types d'insectes auxiliaires. Il y aura des prédateurs, donc des arthropodes qui se nourrissent directement du ravageur, ou bien des parasitoïdes, donc c'est-à-dire des insectes qui vont vivre à leur dépens, c'est-à-dire pondre souvent un œuf ou plusieurs œufs à l'intérieur du ravageur. et de fait le tuer.
En fait, ils doivent vivre ensemble, mais c'est l'équilibre qu'il faut trouver,
voilà,
c'est ça.
En agroécologie, et c'est un peu ce qui est mis en avant dans le cadre du défi, c'est justement d'oublier ces stratégies de lutte et de plus travailler sur les stratégies de gestion de bioagresseurs. On sait très bien, il est présent, on ne pourra jamais s'en débarrasser, c'est une illusion. Donc c'est simplement le maintenir à un seuil non critique et non dommageable pour la récolte.
Un équilibre savant pour préserver les écosystèmes, mais aussi la santé humaine.
L'étymologie du mot pesticide, c'est quelque chose qui tue les pestes, que ce soit des insectes, que ce soit des champignons, que ce soit des herbes. Il y a beaucoup de produits qui sont très néfastes pour la santé de l'agriculteur en premier. Si les produits sont mal utilisés, des intoxications accidentelles peuvent toujours se produire. Un produit qui éclabousse, une mauvaise protection de l'agriculteur, toucher le produit avec la main, une infiltration dans un gant qui se déchire. Donc il peut très bien avoir des brûlures de peau, des malaises, des troubles respiratoires. Et après, on commence à voir des corrélations entre certains cancers et l'utilisation de répétés de certains produits. Par exemple, dans certains produits contenant du glyphosate, il y avait un adjuvant qui était utilisé qui, lui, s'est avéré cancérigène. Celui-là a été retiré.
14 producteurs de mangue font partie du réseau des fermes pionnières Défi sur les 90 que compte la Réunion. Et pour les guider, le soutien des techniciens des chambres de l'agriculture, comme Sébastien Cadet, est important.
On assure un rôle d'animation. On va organiser des journées de démonstration pour le reste du public manguier. Donc le groupe va servir de support, d'expérimentation et de transfert agricole pour les autres. Et donc moi, je passe sur les exploitations, je récupère les données techniques, les observations qu'ils font, combien de traitements ils font. Donc on a mis en place des seuils de nuisibilité par rapport au nombre de ravageurs. Donc les trois ravageurs principaux, la cécidomie des fleurs. Donc là, il y a un seuil qui est établi par rapport au nombre de galles visibles sur les inflorescences. Donc à partir de 3 galles, on va dire que voilà, il y a trop de dommages. Galles, c'est les trous qu'on va voir sur les inflorescences, les petits trous noirs. Donc c'est là où la cécidomie dépose ses œufs. Pour la punaise, pareil, on va réaliser des battages. En fait, les battages, ça consiste à prendre l'inflorescence du manguier, tapoter sur une feuille A4 et regarder ce qui tombe. On va regarder, on va voir des trips, on va voir des punaises, et on va essayer de les dénombrer. Et à un certain seuil, donc plus de 3 punaises sur 10 arbres, on va dire, ben voilà, là, on a peut-être atteint le seuil critique. Donc là, on vous dirige vers un traitement classique. En dessous de ce seuil, très rarement atteint, on va dire, depuis quelques années, on va préconiser le laisser-faire, laisser la biodiversité faire son travail.
Alors comment vous les convainquez, sachant que quand même, ça fait un peu peur pour un agriculteur qui vit de sa production?
Il y a ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales et climatiques. C'est une aide économique de l'État, environ 1 500 € par hectare et par an pour les pièges, c'est-à-dire l'arrêt des herbicides. Après, sur les plus jeunes, même sans l'aide, ils vont y aller. Donc ça sert dans un premier temps pour convaincre un petit peu les anciens, pour donner un petit peu confiance à l'agriculteur.
On va passer dans le sentier.
Alors c'est très sec ici.
C'est un terrain sableux.
C'est un terrain sableux.
Oui. Moi, c'est Phileas Eric. J'ai un verger de manguier de 2 hectares sur l'étang salé.
C'est dans le sud-ouest de l'île. On est sur un terrain très sauvage.
Il y a des cocotiers tout autour.
Et c'est infesté de moustiques.
Et on avait problème de cochonnier.
Comment vous avez éradiqué cela?
En faisant les tailles des arbres alors. Les fongicides, tout ça, on a arrêté.
En fait, on va créer un peu plus de lumière.
Sébastien Cadet.
Tout ce que vous voyez, là, ce qui a noirci l'arbre comme ça, là, c'est le reste des attaques des cochenilles. Donc ça bloque la photosynthèse de l'arbre. Il y a une baisse directe de la production. On l'a conseillé d'arrêter tout ce qui dit les traitements chimiques pour laisser un petit peu la nature recréer un équilibre. Et M. Phileas, de son côté, lui, il a essayé un petit peu le décapage mécanique.
On utilise une lance de pompier à haute pression et on lave les arbres. Il faut attendre. Et c'est un gros coup quand on perd comme ça au niveau du rendement, tout ça. C'est très difficile.
Vous avez évalué à peu près la perte que ça représente pour vous en pourcentage, par exemple?
5 à 10 tonnes, 50 poissons.
Oui, donc c'est important. Mais vous tenez bon?
Oui, on tient bon.
Comment vous imaginez la prochaine récolte?
Là, c'est bien annoncé. On voit que le feuillage pour verdir, c'est mieux.
En agroécologie, il faut constamment expérimenter pour trouver de nouvelles solutions. Sébastien Cadet.
On va travailler donc sur l'insertion de plantes endémiques et mellifères dans les vergers qui vont avoir pour but de fleurir en même temps que le manguier et qui vont attirer les mêmes ravageurs que le manguier, surtout la punaise et les trips. Parce qu'eux, ils se nourrissent essentiellement de sève et de nectar, de pollen. Donc on va essayer d'insérer ces arbustes et ces arbres en brise-vent pour attirer ces ravageurs sur les haies plutôt que les avoir sur les manguiers. Donc là, on va monter un groupe de travail pour essayer d'identifier donc, les espèces. Et ensuite, on va les diffuser au groupe pour voir si ces espèces sont adaptées chez eux et on aura les résultats d'ici 1 ou 2 ans.
En attendant, l'abandon des pesticides a permis aux guêpes de réapparaître dans le verger d'Éric Phileas à la plus grande joie de ses papilles et de celle de son père.
On peut manger les guêpes, c'est le caviar de la Réunion. C'est très bon, les larves. Un filet de guêpe, ici, ça se vend à 250 euros.
Comment en ça friture, se mange
en friture.
Tu mets un petit peu d'eau, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Tu laisses sécher, tu mets ton huile pour faire frire. Et après ça, le guêpe, le goût comme ça.
Un goût de noisette.
Un goût de noisette, ou jamais mangé, ou voit trop bon. Hein, fais pas.
Ça ne me tente pas du tout.
Fallait motiver la réunion pour manger le guêpe.
Entre deux pluies tropicales, nous visitons la plantation de canne à sucre de Jean-Bernard Jaurès, à 400 mètres d'altitude, près de Sainte-Suzanne, au nord-est de l'île. C'est un des 12 planteurs du réseau d'Efficane. Il y a en tout 3400 planteurs à La Réunion. La canne pousse facilement sur l'île Intense. Elle occupe 60% du territoire et génère 18 000 emplois directs et indirects. C'est la deuxième source de revenus après le tourisme. 50% des revenus des planteurs proviennent de la politique agricole commune. Bottes aux pieds, casquette sur la tête et large sourire sur le visage, Jean-Bernard Jaurès a trouvé une astuce pour se débarrasser naturellement des mauvaises herbes.
Là, je suis en train de faire la tonte des herbes dans les interrompts. Ça va couper les herbes, c'est tout bête.
Et avant, vous mettiez des herbicides?
Oui, beaucoup, trop. Maintenant, je suis descendu à certaines parcelles à zéro herbicide. Il y a même le chien qui travaille. Déjà qu'on fait la tonte, ça ramène quand même un peu de matière organique au sol qui va être décomposée par les habitants du sol. Nous, on est en train de marcher sur du monde.
Ce sont des rangées qui sont très resserrées. On se demande même comment une tondeuse peut passer.
Mais la tondeuse fait 60 cm, 65 cm, et ça passe. C'est fatigant, très physique, mais il n'y a pas de pesticides. Parce que le pesticide, si je fais ça avec l'appareil à dos, on va dire un hectare, ça va me prendre une semaine. Avec la tondeuse, un hectare, ça va me prendre 6 heures de temps. Pour moi, il n'y a pas photo. Parce qu'on met de l'herbicide, il faut la combinaison, le masque, il fait chaud dedans. Si on met sans combinaison, on prend un risque pour la santé, pour attraper un cancer. Il y a des personnes qui sont malades avec, mais on n'en parle pas, ça. C'est un sujet tabou. Si on peut éviter toutes sortes de maladies et vivre en bonne santé, c'est mieux.
L'autre patte.
Il existe d'autres techniques plus répandues pour maîtriser les mauvaises herbes. Joseph Antoire, animateur canne à sucre pour le réseau Défi.
Il y a des techniques comme par exemple l'arrachage manuel. C'est très contraignant en main d'œuvre. Ensuite, on a le paillage en fait. C'est vraiment laisser la paille des cannes à la récolte. Donc on fait un tapis de paille à un mulch. Ça protège vraiment les levées d'herbes, se font bien plus tard. Ça maintient l'humidité des sols, ça apporte des minéraux pour la canne. Ensuite, on a l'aspect variétal. Maintenant, avec les recherches qui ont été faites avec ERCAN, on a des cannes beaucoup plus hautes, qui poussent plus vite.
Donc là, nous sommes avec Alizé Mantui, qui est agronome à ERCAN, qui est un centre de recherche et de développement en canne à sucre.
C'est ça, on est en station expérimentale dans le nord de l'île. Il faut savoir que sur la canne à sucre, on utilise uniquement des herbicides. Le problème numéro un, c'est les mauvaises herbes. En conditions tropicales, il y en a beaucoup. Du coup, on recherche des solutions, on va dire, alternatives aux tout chimiques pour pouvoir réduire l'utilisation des herbicides. on est sur une parcelle d'essai. Vous avez de la canne à sucre et au milieu de la canne à sucre, on a planté ce qu'on appelle des plantes de service. C'est des bonnes herbes, donc elles vont concurrencer les mauvaises herbes avec leur ombrage et ça va permettre comme ça de réduire la pression des mauvaises herbes qui vont concurrencer la canne à sucre sur la lumière, sur l'eau, sur les nutriments et qui peuvent faire perdre énormément de rendement aux producteurs en fin d'année.
Alors ça c'est quoi exactement comme herbe ?
C'est une plante locale qui était utilisée à l'époque de nos grands-parents comme haricots. On appelle cette plante le pois sabre parce qu'elle fait des gousses en forme de sabre.
D'accord, donc ça c'est expérimental, ça n'est pas encore quelque chose que les planteurs peuvent mettre en place.
Non, alors on attend de confirmer dans le temps et sur diverses situations de l'île, comme sur l'île de la Réunion, on a des conditions pédoclimatiques qui sont très variées. À l'est, on peut avoir 10 mètres d'eau par an. Dans l'ouest, on peut avoir uniquement 30 cm d'eau par an. On a des reliefs très importants. On cultive la canne à sucre de 0 jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Et donc on est toujours en recherche des bonnes plantes dans les bonnes conditions pour obtenir le service qu'on recherche, c'est-à-dire la maîtrise d'enherbement. Et par rapport à ça, on expérimente aussi des techniques de semis. On peut valoriser la plante de manière économique, par exemple, ça va rapporter de l'azote, du coup le planteur va économiser de l'engrais minéral, ou il peut même récolter les grains pour pouvoir revendre sur le marché, etc. Réduire les herbicides, c'est un enjeu qui est primordial pour la filière, mais aujourd'hui on ne peut pas se passer encore des herbicides.
Alors ici à La Réunion, avec ce projet Ecophyto, vous revenez 60 ans en arrière, puisque il y a à ce moment-là, les planteurs n'utilisaient aucun pesticide.
Exactement. Alors même, je dirais qu'on revient encore plus en arrière que ça. On revient sur des pratiques ancestrales. Alors bien sûr, les dimensions d'exploitation ont évolué. La demande du consommateur a aussi évolué. Il faut qu'on produise plus, mais mieux. Les pratiques, on les adapte. Les plantes de service sur l'interran étaient déjà utilisées il y a 80 ans. C'est des pratiques qu'on peut appeler innovantes parce qu'elles ne sont plus aujourd'hui faites, mais ce n'est pas de l'invention.
Réduire de moitié l'utilisation des pesticides en France à l'horizon 2025 prendra peut-être plus de temps que prévu. Mais les progrès sont là, de nouvelles pratiques ont été adoptées. Il y a aussi une meilleure surveillance des risques. L'Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire a retiré du marché les autorisations de vente d'une centaine de substances phytosanitaires jugées dangereuses. Luc Van Uffel.
On a constaté entre 2011 et 2014 une baisse de près de 10% de matières actives vendues, donc de pesticides utilisés sur le territoire. Donc je ne veux pas dire qu'on se satisfait loin de là, hein, de ces 10%, mais je pense que les effets vont se ressentir sur le long terme. Ce qu'on aimerait faire, et ce qu'on fait déjà actuellement, c'est de faire graviter autour de ces réseaux défis. C'est un projet qui s'appelle au niveau national le projet des 30 000. C'est d'avoir une ferme sur 10 sur l'ensemble du territoire national qui est engagée dans la réduction des produits phytosanitaires. Sachant qu'il y a 300 000 fermes plus ou moins sur le territoire national.
Jean-Luc Maillot, le producteur de mangue que nous avons entendu au début de ce reportage, compte en tout cas rester un défenseur infatigable de l'agroécologie.
Ce n'est pas que j'y crois, c'est que c'est l'avenir. On ne pourra pas faire autrement. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en traitant chimiquement, on va dans le mur, d'une part, et d'autre part, les réglementations sur la santé au niveau européen, au niveau France, etc., enlèvent de plus en plus de produits chimiques de la vente. Interdisent tel produit, telle molécule, etc. Donc ce qui fait que l'agriculteur se trouve coincé non seulement d'un point de vue agroécologique, mais également de plus en plus il ne trouvera plus ces produits-là. Donc il vaut mieux se préparer maintenant, tranquillement, parce qu'il faut à mon avis entre 5 et 10 ans pour retrouver un équilibre au niveau de son exploitation.
Mangue et canne à sucre, l'agroécologie progresse à La Réunion. Un reportage d'Ariane Gaffuri, réalisation Eva Moschinski. Cette émission est cofinancée par l'Union européenne.